Bonsoir. Ce soir, à 20h45, une chaîne de télévision française diffusera en première partie de soirée, en prime time, comme on dit, un match de rugby féminin et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit d'Irlande-France, match dans le cadre de la Coupe du Monde de rugby féminin qui se dispute en ce moment à Dublin. Du jamais vu, puisque jusqu'à présent, il faut bien le reconnaître, les sports collectifs féminins n'avaient le droit qu'aux petites chaînes et aux horaires confidentiels. Alors, comment expliquer ce soudain regain d'intérêt pour les sports collectifs féminins? Est-ce que cela permettra à des sportifs de ne plus vivre à l'ombre de leurs homologues masculins? Une telle démonstration pourrait-elle être de nature à susciter des vocations chez les jeunes sportives? Et enfin, est-ce que ces dames arriveront elles aussi à décrocher des sponsors et à attirer de riches sponsors? Vous le voyez, les questions seront très nombreuses ce soir.
Philippe Lefebvre, le téléphone sonne.
Et pour répondre à toutes ces questions, je vous présente nos invités. Béatrice Barbus, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ancienne handballeuse professionnelle, aujourd'hui sociologue et présidente du Comité national pour le développement du sport. Aurélie Bresson, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la fondatrice du magazine Les Sportives. Alors, on ne pouvait pas ne pas vous avoir dans cette émission. Julien Jappert, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes président du groupe de réflexion Sport et Citoyenneté. Et enfin, à mes côtés, pour vous interroger, Fanny Lechevestrier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste à la direction des sports de Radio France. Et pour poser vos questions, réagir ou témoigner, c'est très simple. Alors, d'abord, il y a bien évidemment le standard, le 01 45 24 7000. Mais aussi le site franceinter.fr et les réseaux sociaux, mot-clé Telson.
France Inter, le téléphone sonne. Vos questions 01 45 24 7000 ou sur les réseaux sociaux avec le mot-clé Telson.
Alors, avant de prendre nos premiers appels, parce qu'il y a beaucoup d'appels ce soir au standard du téléphone sonne, une première question, un premier tour de table virtuel, si je puis dire. Comment expliquez-vous cet anonymat des sportives féminines? Pas toutes les sportives. Si elles font du tennis, de l'athlétisme, de la GRS, on les voit beaucoup. Si elles font du hand, du foot et a fortiori du rugby, on les voit assez peu. Béatrice Barbus.
D'abord, je suis pas tout à fait d'accord sur votre constat. On les voit pas forcément plus, les sportifs qui font des sports individuels. Lorsqu'on demande de citer des sportifs préférés, de faire citer aux Français des sportifs préférés, souvent ils ne savent pas donner des noms de sportives, hormis Jeannie Longo qui arrive toujours, ou Amélie Mauresmo, ou Manodou. Mais voilà, des sportifs d'aujourd'hui, elles sont pas très 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 connues. Donc ce n'est pas une spécificité des sportives qui font du sport collectif que de ne pas être reconnues par les médias et par les Français en général. Comment on peut l'expliquer? Parce que tout simplement, elles sont beaucoup moins médiatisées que les garçons, puisque si on regarde leur présence dans les médias, notamment télévisuels, aujourd'hui, ça représente 20%. On est parti de bien bas, puisqu'il y a 3 ans, c'était 7%. Et donc, voilà, ça progresse. Donc, elles sont moins visibles médiatiquement, donc forcément, elles sont moins connues et moins reconnues.
Mais c'est un petit peu la question de la poule et de l'œuf. Elles sont moins nombreuses, donc on médiatise moins, ou on médiatise moins parce qu'elles sont moins nombreuses?
Non, c'est plutôt la première phrase. C'est-à-dire qu'elles sont moins connues et elles sont moins nombreuses parce qu'elles sont moins médiatisées. Parce que lorsqu'on se rend compte qu'à chaque fois qu'elles sont médiatisées et qu'elles font des titres, on se rend compte que dans les sports respectifs, on voit une hausse des licenciés EES. Donc on ne peut pas faire quelque chose qu'on ne voit pas. Si les jeunes filles ne voient pas à la télévision ou dans les journaux ou n'entendent pas parler à la radio des sportives, elles n'ont pas forcément envie donc d'en faire. En revanche, quand elles voient des sportives qui gagnent, que l'on montre à la télé, etc., si je prends l'exemple de Sarah Ouramoun aux Jeux Olympiques et de Estelle Mosseli, les deux boxeuses qui sont à la fois championne olympique et vice-championne olympique à Rio 2016, eh ben, on a pu constater qu'à la rentrée en septembre 2016, eh ben, il y a eu une progression très fulgurante du nombre de boxeuses dans les clubs et au sein de la Fédération française de boxe. Donc c'est plutôt, on médiatise et après elles seront plus nombreuses. On ne peut pas devenir ce qu'on ne voit pas. C'est pas possible.
Aurélie Bresson, quand on voit l'équipe de France de féminine de rugby ce soir contre l'Irlande, est-ce que ça veut dire que bientôt on va voir dans les sections féminines des clubs de rugby, si tant est que ça existe, plus d'adhérentes, de licenciées?
Ben, on l'espère, surtout quand on part du constat qu'en 2014, il y a eu un succès médiatique assez important par rapport à la Coupe du Monde qui a eu lieu en France. Bon, elles étaient qu'à la troisième place, elles auraient pu faire une belle finale, mais ça représentait déjà sur France 4 près de 2 millions de téléspectateurs. Je crois que c'était 10% de part d'audience. C'était déjà assez impressionnant et c'était un très beau succès médiatique pour elles. Et en plus, on a vu les effets derrière, puisque la Fédération de rugby a communiqué ses chiffres sur le fait qu'ils sont passés aujourd'hui à 20 000 licenciées féminines. Donc, c'est plus de 102%. En fait, elles sont passées de 12 000 à 19 000 de 2014 à 2017, justement suite à la Coupe du Monde de rugby en France, ce qui représente plus de 102% d'augmentation chez les moins de 15 ans. C'est quand même assez astronomique et on voit justement que cet effet médiatique a un très gros impact sur la pratique sportive et normalement et notamment chez les moins de 18 ans.
Fanny Lechevestrier, vous les suivez, ces sportives professionnelles ou pas d'ailleurs, mais ça doit être terrible de voir passer, je parlais du sponsoring tout à l'heure, de voir passer des TGV pleins de billets et puis de rester à la remorque et de
pas
avoir
elle se compare non plus. Il faut voir que c'est deux mondes différents aussi. Après, c'est un peu démagogique de dire bon bah voilà, Neymar il coûte tant, 222 millions d'euros. C'est indécent.
Ça ferait combien de joueuses de l'Olympique Lyonnais?
C'est incomparable. mais il rapporte aussi. Voilà, aussi il y a une machine économique qui s'est mise en place pour le sport féminin. Voilà, il faut tout se mettre en place. On parlait du rugby féminin, de l'exemple effectivement des effectifs qui grossissent. Après, on en est encore qu'à 19 000 licenciés. C'est peu, même si c'est beaucoup d'augmentation en 3 ans. Et le problème, c'est que derrière, les clubs n'ont pas encore la capacité à se structurer et à accueillir tout cela. On parlait de l'augmentation des moins de 15 ans, notamment, effectivement, qui a plus que doublé. Le problème, c'est qu'au début, ces jeunes filles, aujourd'hui, elles font du sport avec les garçons. Au rugby, jusqu'à 15 ans, il y a des équipes mixtes. Et après, elles n'ont plus rien. Donc, la pratique s'arrête aussi. Donc voilà, c'est pas que des questions d'argent, c'est aussi des structures à mettre en place, des choix à mettre en place pour qu'il y ait des équipes féminines, des clubs dédiés pour les filles.
Julien Jappert, on l'a vécu il y a quelques mois, pendant les élections présidentielles, pendant les législatives, il y a un mot qui est revenu, c'est parité. Alors on a parlé de la parité pour tout, sauf pour le sport. Et alors là, franchement, on n'est pas très bon en termes de parité sur le sport.
Oui, c'est vrai qu'en France, on n'est pas très bon, mais dans le sport en général, pour répondre à votre question, on est dans un secteur créé par des hommes, pour des hommes, dirigé par des hommes. Donc effectivement, on médiatise davantage le sport masculin que le sport féminin. Mais, et c'est là que on a beaucoup d'espoir, et je pense qu'on est tous d'accord sur cette volonté de voir la pratique féminine et la médiatisation du sport féminin augmenter, les femmes trouvent des ressources extraordinaires justement pour développer la pratique et leur médiatisation. Et effectivement, il y a même des lois, il y a tout un arsenal juridique qui permet aujourd'hui une parité. Donc non, on a quand même évoqué le sport et au plus haut niveau de l'État d'ailleurs, puisque c'est un sujet qui tient à cœur à notre président de la République et à notre ministre des Sports Laura Flessel qui s'empare de ce sujet. On est maintenant face à des progressions certaines dans la pratique qui est différente de celle des hommes, qui est plus libre, qui est plus révolutionnaire, on va dire, et les femmes sont en train de prendre le pouvoir, et heureusement, il y a même des hommes, je vous remercie d'ailleurs de m'inviter à cette émission, il y a même des hommes qui encouragent ces mouvements.
Allez, on retourne au standard du téléphone sonde, on va retrouver François. François, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bienvenue sur France Inter, nous vous écoutons.
Ben, je dis bonsoir à tous vos invités, à toutes les auditrices, auditeurs. Je suis un fidèle de l'antenne. D'abord, je voudrais dire que ce soir, je suis tristement barcelonais. Ça me peine beaucoup, j'en ai marre, quoi, qu'on leur coupe les vivres à ces gens-là. Et puis voilà, je voulais dire que moi, je fais un constat. Je trouve que dans le sport féminin, je suis depuis longtemps, je suis du volley-ball, je suis des choses comme ça, du basket. Et de voir le foot féminin, le rugby féminin, eh ben, les femmes sont beaucoup moins violentes que chez les mecs et beaucoup plus voltigeuses, quoi. Ce soir on va voir du rugby. Moi je m'attends à voir du rugby champagne, quoi. Et je voudrais que ça continue, quoi. Puis qu'on leur donne les moyens, quoi.
Alors, Fanny Lechevestrier, je lisais dans la presse aujourd'hui un commentaire. On disait, à propos du rugby féminin et de ce match Irlande-France ce soir à Dublin, qu'on allait avoir de l'ancien rugby, enfin ouais, ce que faisaient les mecs il y a quelques années, et que alors qu'aujourd'hui les hommes sont plus dans la collision, on allait avoir du beau jeu, du jeu à l'ancienne.
Après, moi, ça m'agace un petit peu qu'on compare toujours, effectivement, on dit, voilà, on va avoir le rugby de Serge Blanco. Faut arrêter de comparer. Voilà, elle pratique effectivement un beau rugby. Les hommes sont capables aussi de pratiquer du beau rugby. Bon, en ce moment, c'est vrai que le 15 de France masculin, ça marche moins bien. Il y a moins de résultats. Mais bon, arrêtons de comparer toujours les deux, quoi.
Et on essuie les crampons pareil?
On essuie les crampons pareil. Il y a moins de bagarres. Allez, en mêlée, si vous voulez.
Béatrice Barbu, votre sentiment là-dessus, sur ce que disait François, hein, que c'est moins violent, c'est plus joli, c'est plus agréable à regarder. C'est presque une réaction.
J'ai la même position que Fanny. Il faut arrêter de comparer parce que la comparaison ne bénéficie jamais au sport, aux féminins et aux filles. À chaque fois que l'on compare, c'est toujours pour plus ou moins dévaloriser, pour dire voilà, elles sont encore à une étape du rugby des années 70, 80. Oui, ok, on le sait, elles partent de très loin, comme dans le football et comme dans d'autres sports. On part de beaucoup plus loin. Laissons les sportives développer le sport comme elles ont envie de le développer. Arrêtons de toujours faire la comparaison. Je reprendrai une formule de Guillaume Gilles, qui est l'entraîneur de l'équipe masculine de handball aujourd'hui, et qui est un ancien expert multiple, donc champion du monde, qui après sa carrière a entraîné un petit peu en tant qu'adjoint l'équipe féminine de Toulon au handball, et à qui on demandait à un tweetos lui demandait alors qu'est-ce que ça fait d'entraîner des filles, et il a répondu, je trouve que c'était fort justement, il a répondu, la balle rebondit de la même façon, voilà, stop. Donc moi j'ai la même position que Fanny là-dessus, j'aime pas comparer, je ne compare pas, je prends du plaisir à regarder aussi bien du sport au féminin que du sport au masculin.
Alors, nous avons reçu un message de Pauline sur le site franceinter.fr. Afin de valoriser, dit Pauline, le sport féminin et de lutter contre la discrimination médiatique, la seule solution n'est-elle pas d'exiger réglementairement une part égale de traitement homme-femme dans tous les médias? Julien Lajapert.
Oui, voilà. Effectivement, quand il y a des sujets de société qui patinent, je pense que le droit est là pour aider. Et moi, je suis pas vraiment d'accord avec Béatrice Barbu. C'est-à-dire que je pense que un phénomène, il faut l'aider, il faut l'encourager tant qu'on peut. Et on voit, si on regarde un petit peu au-delà de nos frontières, ce qui peut se passer, par exemple, aux États-Unis ou en Angleterre, juste à côté de chez nous, il y a énormément de sponsors qui investissent de l'argent parce que justement, il y a une réglementation qui favorise ça, on est capable de mélanger l'argent public et l'argent privé, et là, les médias, à ce moment-là, s'emparent de la situation, diffusent du sport féminin, et ça a des répercussions directes sur la pratique. Donc oui, il existe un arsenal au niveau français. Et également, on va pas rentrer dans un débat très technique, mais avec la directive Télévision sans frontières, on peut même exiger que du sport féminin soit diffusé en clair, donc pour tous. Et ça, c'est des outils qui sont peu connus et peu utilisés, malheureusement.
Allez, on va à Vincennes retrouver Marilyn. Marilyn, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bienvenue sur France Inter, nous vous écoutons.
Merci. Je voulais simplement vous interroger sur, ne pensez-vous pas quand même que si les filles sont médiatisées aujourd'hui, et c'est tant mieux, j'en suis super super contente, c'est quand même parce que les chaînes ne peuvent plus obtenir les droits par rapport aux professionnels hommes. Voilà. Voilà, je pense que techniquement parlant, en plus, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, que ce soit au football par exemple ou bien dans le rugby, je suis pas sûre qu'elle ait grand chose à envier aux hommes, mais ça c'est encore autre chose. Mais voilà, je pense que voilà, on ne voit plus les championnats français, que ce soit en foot, parce qu'on nous donne du championnat anglais, du championnat, enfin, voilà, des pays qui nous intéressent, enfin, en tout cas qui moi m'intéressent pas forcément. Le rugby, c'est pareil, par le passé, c'est pas si vieux, le samedi ou le dimanche, on arrivait à avoir encore des championnats français. Aujourd'hui, on ne les voit plus, hein, chez les hommes. Donc maintenant, on met les femmes. Tant mieux pour nous, tant mieux pour tout le monde. Mais voilà, le problème, il est aussi là, je pense qu'il faut quand même le dire.
Aurélie Bresson, c'est vrai, quand on regarde un petit peu, alors on va dire du mal de certains de nos confrères de la télévision, on voit des matchs, parfois des matchs de foot obscurs, de championnats que personne ne connaît, parce que c'est vrai qu'un match de foot, ça fait quand même 90 minutes d'antenne, donc ça remplit un peu les grilles de certaines chaînes. Mais pourquoi aller chercher des championnats au bout du monde alors qu'on pourrait diffuser, par exemple, des matchs de rugby, de foot féminin?
Parce qu'il faut aussi il faut des exemples.
c'est sûr qu'on regarde toujours chez les voisins. Je pense que on revient de tellement loin sur le sport au féminin, il n'y a qu'à regarder sur les Jeux Olympiques. C'est qu'en 1900 que les femmes ont eu le droit de participer aux Jeux Olympiques et c'est qu'en 2012 à Londres qu'elles étaient présentes dans toutes les disciplines sportives. Donc déjà on vient de trop loin, de beaucoup trop loin pour pouvoir encore comparer. Donc je reviens à ce que disait tout à l'heure Fanny et Béatrice. Et je pense que c'est pareil au niveau économique. On revient tellement de loin et c'est tellement pas comparable. Et en fait, le rugby féminin n'est pas assez connu. C'est juste que c'est pas assez médiatisé. Du coup, moins c'est médiatisé, moins on a envie de le médiatiser. Et du coup, c'est le serpent qui se mord la queue. Et je pense qu'on a vraiment eu un déclic à la dernière Coupe du Monde avec les résultats. On voit que les filles peuvent faire du résultat. C'est comme si la France, même le monde entier, commençait à voir que les filles pouvaient faire des performances et des résultats dans toutes les disciplines sportives, et vraiment dans toutes disciplines sportives à travers aussi les Jeux Olympiques. C'est pour ça que enfin le regard est donné au niveau médiatique.
Et Fanny Le Chevestrier, c'est terrible ce qu'elle dit, Marilyn, finalement, quand on écoute et quand on prend le temps d'analyser un peu ses propos et son indignation, elle dit ouais, on met du sport féminin à la télé parce que ça coûte pas cher.
Peut-être que ça a été le parti pris au départ de certaines chaînes publiques, mais on voit aussi qu'il y a une évolution de ce côté-là, parce qu'avant, on les mettait sur les chaînes de la TNT. Si on prend le football féminin, c'était la chaîne TNT, et des chaînes TNT, puis après, on voit que ça marche. Donc finalement, les grandes chaînes nationales, eh bien, vont récupérer ça. Donc, il y a quand même déjà, là aussi, une évolution là-dessus. On l'a vu sur le foot féminin, effectivement, ça coûtait pas cher. Et puis finalement, eh bien, TF1 est en train de racheter les droits de la prochaine Coupe du Monde pour pouvoir les passer sur sa chaîne. Donc il y a un vrai investissement. Après, c'est vrai que les droits sont aujourd'hui moins chers, mais tant mieux.
Allez, on va à Nantes retrouver Olivier. Olivier, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bienvenue au téléphone sonne.
Merci de prendre mon appel. J'ai bien écouté ce qu'ont dit vos intervenants. Je suis d'accord, le sport féminin est sous-médiatisé, mais les progrès sont quand même notables. Mais en tout état de cause, il faut créer un exploit pour faire la une. Et là, on parle du sport de l'élite. Moi, j'ai envie de parler un peu des 350 000 matchs de sport co qui ont lieu chaque saison en France et qui concernent toutes les petites équipes, tous les petits clubs locaux. Et ces petits clubs locaux, bien sûr, souffrent de sous-médiatisation. Et moi, je vais prêcher un peu pour ma paroisse. Et je travaille pour une appli qui s'appelle Score & Co. Et on a développé un outil qui permet, grâce à un live, par le texte et la photo, à chaque équipe de raconter ses matchs et de les partager avec la communauté. Donc, c'est un outil de pro pour les clubs amateurs qui est complètement gratuit. Et parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont, à la base, les petits clubs qui font les championnes. Je prendrai le dernier exemple. En ce moment, il y a pas très longtemps un championnat du monde non télévisé des U16, des jeunes féminines de basket. Ils ont été championnes d'Europe. Eh bien, c'est la génération des Jeux de 2024. Et nous, on a envie de permettre à tous ces petits clubs d'assurer leur propre médiatisation, parce qu'il faut pas attendre les grands médias pour assurer cette médiatisation.
Béatrice Barbus, ça veut dire qu'il faut cette médiatisation, il faut qu'elle commence au plus bas de l'échelle, dans les petits clubs, en province, dans les villages, les villes et les villages.
Oui, aussi, mais pour que cette médiatisation fonctionne au plus bas niveau, il faut d'abord qu'au haut niveau, il y ait cette médiatisation suffisante. Et là, je rejoins, contrairement à ce qu'a dit Julien, on est tout à fait d'accord tous les deux, à savoir qu'il faut bien évidemment une vraie volonté politique et tout un tas de dispositifs très certainement juridiques, voire contraignants peut-être d'un point de vue économique pour les médias. Mais c'est la question la plus cruciale, car sans médiatisation, on ne peut pas avoir non plus des sponsors, des partenaires privés. Ce n'est pas possible. Ça fait 20 ans qu'on balle, on essaye. Au basket, ils essayent aussi. Au volley, ils essayent également. Vous prenez le club de Cannes qui a gagné, je ne sais pas combien, plus de 20 fois des titres de champion de France et qui ont gagné des titres européens. Vous prenez le club de Metz aussi, qui est le handball, qui est l'équipe féminine la plus titrée. Ils essayent par tous les moyens, mais tant que vous ne passez pas à la télévision, tant que vous ne passez pas sur les médias, vous n'êtes pas attractif d'un point de vue économique. On a tout essayé. On a travaillé avec toutes les agences à la Fédération Française de Handball, pratiquement beaucoup d'agences en tout cas. On n'y arrive pas. Alors oui, on peut médiatiser en bas, mais c'est d'abord pour les faire vivre, parce que comme le disait Fanny, il faut structurer les petits clubs pour pouvoir accueillir ces jeunes filles. Mais pour structurer les petits clubs, qu'est-ce que ça veut dire structurer les petits clubs? Ça veut dire avoir des salariés, des encadrants, des entraîneurs, éventuellement des salariés administratifs. Et pour ça, il faut de l'argent aussi. Donc tout ça est un problème aussi d'ordre économique, pas seulement un problème d'ordre de volonté politique. Mais là, on a aussi besoin, bien entendu, du politique pour nous aider peut-être à déployer des moyens plus importants, c'est-à-dire en ciblant ce qu'on a fait au CNDS depuis 4 ans, hein, depuis 2012, en ciblant, par exemple, la distribution des subventions sur des critères de féminisation, c'est-à-dire, disons clairement, peut-être subventionner plus des clubs dits féminins qui accueilleraient des filles plutôt que des clubs qui accueillent déjà des garçons. Quand vous avez des clubs au niveau local qui ont, par exemple, c'était mon cas dans ma ville à Créteil, 1000 garçons qui faisaient du football, et que vous dites au président de l'association pourquoi n'y a-t-il pas d'équipe féminine, et qu'il vous répond il n'y aura jamais de filles. Parce qu'on n'a on a pas d'encadrant, on n'a plus de créneau horaire. Ben, je dis, au lieu de prendre 1000 garçons, t'en prends 950. Et tu prends 50 filles. Donc, vous voyez que le problème, il est hyper complexe. C'est un problème aussi d'équipement sportif. Parce que là, on est en train de dire, il faut plus de filles, plus de filles. OK, si on met plus de filles à côté de plus de garçons, on les met où? Dans quels équipements sportifs? Ils sont tous quasiment saturés. Donc c'est un problème qui est très extrêmement complexe et qui ne se limite pas seulement à la question de la médiatisation.
Alors, nous allons refaire un point sur la situation à Barcelone avec vous, Mathilde Dehimy, donc après cet attentat sur la Ramblas, au lieu touristique de la capitale catalane espagnole.
Oui, zone très fréquentée par les touristes, effectivement. Confirmation d'un bilan provisoire, celui donné à 19h et quelques, à la fois par les autorités catalanes et par la police, qui est pour l'instant de 1 mort, 32 blessés confirmés, dont 10 graves. Mais les autorités catalanes ont ajouté également que ce bilan était amené à évoluer. Des sources policières citées par des médias espagnols parlent, eux, plutôt de 10 à 13 morts. La TV publique espagnole annonce, il y a quelques minutes, a annoncé l'arrestation d'un suspect en lien, dit-elle, avec l'attaque. On ne sait pas encore s'il s'agit du conducteur de la fourgonnette. Elle donne un lien, ce serait un nom, ce serait le nom de la personne qui aurait loué cette fourgonnette. On parle aussi d'un deuxième homme retranché dans un restaurant turc. Là aussi, pas de confirmation, mais des photos qui montrent des policiers en armes. Une partie des transports à Barcelone a été rouvert. Les autorités demandent aux gens d'éviter les déplacements, ce qui ne semble pas vraiment suivi d'effet, si on en croit Caroline, qui est parisienne et qui vient d'être jointe au téléphone par Élodie Forêt.
Les rues sont blindées de gens, c'est compliqué. Il y a les hélicos qui tournent au-dessus de nous, il y a des voitures de flics partout. On ne sait pas trop si on peut passer à certains endroits ou pas. Il y a des bandes pour limiter l'accès aux rues. C'est un peu étrange comme
atmosphère.
Comme atmosphère, ouais. Parce qu'il y a tout le monde dans les rues, mais en même temps, c'est pas joyeux du tout. Et en même temps, il y a d'autres personnes qui font comme si de rien n'était. Donc voilà. Là, tout de suite, on essaye de retrouver la voiture, effectivement, mais sur le moment, on sait pas trop, en fait. On croit peut-être pas une mauvaise blague, mais on se dit c'est pas possible. On est là vraiment sur cette journée-là, et on n'est pas en vacances à Barcelone, on est là juste pour la journée. Et on se dit merde, sachant qu'on vient de Paris, qu'on a déjà vécu les attentats à Paris, et on se dit qu'on n'est pas tranquille, en fait. Peu importe où on n'est pas tranquille, sachant que j'habite pas très loin du Bataclan, donc... Et à ce moment-là, j'étais chez moi, j'étais sur mon balcon, j'avais entendu les tirs au niveau de la rue de Charonne. Et là, du coup, ça nous retombe encore dessus, quoi.
Le Quai d'Orsay est en train de vérifier s'il y a des victimes françaises, Philippe. En attendant, le consulat général a mis en place un numéro vert, le 0034 93 270 30 35.
Et n'hésitez pas à venir nous retrouver avant la fin de ce téléphone sonne si vous avez d'autres informations. Merci Mathilde.
France Inter. Le téléphone sonne. Vos questions 01 45 24 7000 ou sur les réseaux sociaux avec le mot-clé TELSON.
Alors, avant de retourner au standard du téléphone sonne, Fanny, moi j'ai une question à vous poser à propos des sponsors, parce que c'est quand même le nerf de la guerre pour les sportifs, qu'ils soient hommes ou femmes. À une certaine époque, les sponsors, ils investissaient, ils prenaient des risques en mettant de l'argent, en finançant la carrière d'un jeune sportif ou d'une jeune sportive. Aujourd'hui, on a l'impression que les sponsors ne misent que sur les valeurs sûres. Ce que je retiens de ce qu'on a dit depuis le début de cette émission, c'est s'ils avaient des résultats, si on les voyait plus à la télé, les sponsors viendraient. Donc les sponsors, comment on peut faire pour qu'ils reviennent au sponsoring à l'ancienne ?
Il y a la crise économique qui est passée par là aussi, peut-être, et qui fait qu'on est plus prudent dans ces investissements. Après, ce constat-là, il est valable et pour les hommes et pour les femmes, je crois, distinctement. Après, on voit quand même qu'il y a des sponsors qui reviennent, qui viennent dans le sport, mais plus peut-être pour la pratique loisir. Et effectivement, ça se voit moins aussi, c'est moins médiatisé. Mais on voit qu'il y a beaucoup de sponsors qui commencent à investir dans la pratique loisir. Et là, les femmes ont une carte à jouer et sont même peut-être en avance par rapport aux hommes économiquement.
Allez, on retourne au standard, on va retrouver Agnès. Agnès, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue sur France Inter, nous vous écoutons.
Merci, bonsoir à tous. Alors, moi je voulais évoquer la situation d'un sport que je pratique depuis 60 ans, qui est l'équitation. Et lorsque j'étais enfant, c'était un sport qui était essentiellement masculin et qui s'est très fortement féminisé, je pense suite à la démocratisation de ce sport, qui fait que, et aussi au fait qu'on a valorisé la relation avec le cheval, enfin des aspects plus traditionnellement féminins. Et il se trouve que malgré cette très forte majorité féminine, à un haut niveau, Jeux olympiques, championnats du monde, grands concours, et au niveau des cavaliers professionnels, on trouve une majorité d'hommes. Alors il y a sans doute des raisons sociétales à cela, mais je trouve qu'il y a là un paradoxe que je voudrais signaler.
C'est vrai. Béatrice Barbus, votre sentiment là-dessus? Alors, c'est vrai qu'on est loin du hand, hein, mais c'est vrai qu'on a l'impression que l'équitation du dimanche matin, c'est plutôt, ou du week-end, c'est plutôt une affaire de jeunes filles, et les JO, c'est plutôt une affaire d'hommes.
Enfin, pas les JO en général, puisque comme l'a dit Aurélie Bresson tout à l'heure, aujourd'hui, on a quasiment la parité. Au JO de Rio 2016, il y avait plus de 40, il y avait 45% d'athlètes féminines, et il y en aura très certainement en 2024, 50 et 50%. Donc aujourd'hui, la parité est atteinte aux Jeux Olympiques. Vous parlez de l'élite sportive. Alors effectivement, plus on monte, et moins on trouve de femmes dans l'élite sportive. C'est une question aussi de moyens déployés. Bien souvent, dans certaines fédérations, les moyens ne sont pas équitables entre ce que l'on donne à l'élite féminine et ce que l'on donne à l'élite masculine. Toutes les fédérations ne sont pas comme la Fédération française de handball. Nous, on a décidé depuis... les filles se sont battues, hein, les filles de l'équipe de France se sont battues pour, après avoir été championne du monde en 2003, où aujourd'hui, nous donnons les mêmes moyens aux garçons et aux filles. Et tout le monde est surpris parfois parce qu'on a des très bons résultats. On est vice-champion olympique aussi bien en filles qu'en garçons en 2016. Mais c'est pas le fait du hasard non plus, parce que les gens travaillent bien aussi, mais parce qu'on donne des moyens aux deux qui sont équivalents. Donc c'est aussi une question de moyens. Si je reprends la boxe, pendant très longtemps à la boxe, les filles n'avaient rien, n'avaient quasiment rien. Et on mettait quasiment tous les moyens chez les garçons. Donc voilà aussi les raisons pour lesquelles on voit plus de garçons au niveau de l'élite sportive que de filles. Puis il y a une deuxième raison, c'est que dès qu'on arrive à l'élite, et bien là encore une fois, là on est dans la question de l'origine du sport un petit peu. Une femme, elle est... voilà, vous avez dit que les femmes pratiquent plus des pratiques libres. Oui, parce qu'elles se voient, et on a tendance aujourd'hui, c'est un peu le piège dans lequel il ne faut pas tomber, on a tendance à dire que les femmes sont plus attirées, en tout cas c'est ce qu'elles disent quand on les interroge, par du sport santé. Mais des femmes peuvent être aussi attirées par la compétition, la très haute compétition. Il ne faut pas les mettre non plus dans un carcan. Donc j'espère que dans les années qui viennent, tout ça va se décanter un petit peu et qu'on avancera, j'en suis même persuadée.
Alors une question poil à gratter de Bernard sur le site franceinter.fr. Ne craignez-vous pas que l'augmentation, dit Bernard, de la surface médiatique du sport féminin n'entraîne aussi une augmentation symétrique du dopage féminin? Béatrice Barbus.
Oui, alors ça... Alors,
c'est le vieux c'est la vieille histoire des nageuses est-allemandes.
Très clairement, elles ne sont pas plus vertueuses que les garçons. Et le professionnalisme tel qu'il se développe aujourd'hui en France, et j'allais dire au-delà de la France, même en Europe, voire même bien évidemment aux États-Unis, génère le dopage. Donc oui, il y a un risque. Forcément, il y a un risque. Nous ne sommes encore une fois pas plus vertueuses que les hommes.
Fanny Le Chevestrier, ça, si, c'est la vieille histoire qui revient, parce que à une certaine époque, quand on parlait du sport féminin, il y avait ce qu'on appelait le concept de la nageuse d'Est allemande,
oui,
qui avait format
Normande,
et
ouais.
Voilà.
Ni plus ni moins que les hommes. Donc, a priori, voilà, là, il n'y a pas de différence dopage féminin ou dopage masculin, ça reste du dopage.
Julien Jappert.
Je suis un peu, oui, je suis pas vraiment d'accord. C'est pour ça que je ronchonnais un peu. Je pense que justement, on est dans une gouvernance archaïque où on n'a pas, dans le monde du sport, où on n'a pas encore tout testé. Et je suis persuadé également en termes de sponsoring que les entreprises auront demain plus envie de miser sur le sport féminin parce qu'ils pourraient entraîner chez les sportives et chez les dirigeantes du monde du sport quand elles auront le pouvoir des comportements peut-être différent du monde masculin. Parce que la grande erreur, ce serait ça, justement. Ce serait que les femmes prennent le pouvoir et qu'elles aient les mêmes comportements que les hommes. Et si on souhaite, c'est ce que l'on souhaite, une société meilleure où le sport pourrait justement jouer un rôle plus important dans la société, on croit vraiment que les femmes pourraient avoir des comportements différents. Et moi, j'aimerais bien aussi qu'on puisse comparer, là, je suis pas vraiment d'accord aussi avec vous, les hommes et les femmes, en particulier dans leurs revenus. Dans le tennis, on a énormément avancé parce que justement, on est sorti d'une gouvernance où on ne comparait pas. Et aujourd'hui, les hommes et les femmes dans le tennis sur les tournois du Grand Chelem gagnent la même chose. Donc je pense qu'il y a des pistes quand même qui sont très encourageantes et qui pourraient encourager la pratique parce qu'on a besoin de mixité dans les clubs et même dans les plus petits clubs. Et peut-être même que c'est un sujet qui pourrait être lié à l'actualité espagnole du jour.
Allez, on va en Seine-Saint-Denis retrouver Bernard. Bernard, bonsoir.
Oui, bonsoir. Oui.
Eh bien, bienvenue sur France Inter, nous vous écoutons.
Oui, merci, bonsoir à tous. Voilà, moi c'est... Voilà, pour qu'un sport féminin soit davantage médiatisé, on sait que les gros médias recherchent d'audience, hein, faut pas.
Ah, je crois qu'on a un tout petit problème de liaison, on va essayer de vous rappeler. On peut reprendre un peu la question de Bernard. Fanny, c'est vrai que les médias cherchent des résultats, cherchent des médailles. S'il y a plus de médailles, s'il y a plus de résultats, s'il y a plus de victoires, fatalement le sport féminin aussi va avoir accès aux médias.
Oui, on le voit, ce côté-là, on le voit parce qu'aujourd'hui on médiatise dans le sport féminin, par exemple pour les sports collectifs, que l'équipe de France, c'est la vitrine. Et derrière, effectivement, on va pas médiatiser un match de championnat de football où l'équipe du PSG ou de Lyon va mettre un 8-0 à l'équipe, une autre équipe. Voilà. Effectivement, la vitrine aujourd'hui, on le sait, on le mise. France 2 s'en cache pas aujourd'hui. Ils espèrent faire ce soir 2 millions à peu près de téléspectateurs. Ils misent sur une équipe de France qui a des résultats. Ils vont pas chercher. Après, est-ce que c'est pas contre-productif de présenter à la télévision à une heure de grande écoute un match de championnat où il va y avoir une énorme différence d'écart? Moi, je suis pas sûre là-dessus.
Bon, Béatrice Barbus, ce soir, je suppose que vous serez devant votre écran de télévision.
Ben non, parce que je suis en vacances et que j'ai quelque chose en famille et donc je ne serai pas devant mon écran de télévision, mais je regarderai le replay. Là, ça, vous pouvez me faire confiance.
Aurélie Bresson, pour revenir à ce que disait Bernard sur, pour que ce soit médiatisé, il faut des victoires, il faut des médailles, il faut des gens qui nous fassent rêver.
Alors, on est dans une culture française ou même internationale, on va toujours chercher les objectifs, toujours chercher la performance. Forcément, s'il y a des performances, si c'est spectaculaire, il n'y a rien qu'à voir le Tour de France, c'est spectaculaire, du coup c'est surmédiatisé. On est toujours dans l'atteinte d'objectifs, on est toujours dans l'atteinte du toujours plus, donc forcément quand ça impressionne, quand c'est beau, quand il y a de la paillette, ou de la médaille, ou forcément du trophée, eh ben on médiatise davantage. Après, pour revenir sur la notion de dopage, tout à l'heure, je souhaitais aussi intervenir.
Alors, très rapidement, parce qu'on arrive à la fin de cette émission.
Julien Jappert là-dessus. Pardon ?
Très rapidement, parce qu'on arrive à la fin de cette émission.
Très rapidement, alors, puisque je trouve que il a raison dans le sens où on est totalement différents, les hommes, les femmes, qu'il faut arrêter aussi de comparer, et c'est de même dans le dopage. Les femmes, elles ont aussi eu des tests de féminité. Elles ont eu certains tests que les hommes n'ont pas eu. Donc forcément, je pense que l'approche du dopage sera aussi différente et que dans la pratique, dans la médiatisation, tout sera forcément différent.
Eh bien, ce sera le mot de la fin qu'on pourrait dire quand même que là, c'est un bel exemple de décalage médiatique, Fanny, entre le Tour de France féminin et le Tour de France
Il a complètement disparu, le Tour de France féminin.
Il en est mort.
Faute de budget.
Absolument. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci d'avoir participé à cette émission. Demain, au Téléphone Sonne, nous parlerons du tourisme durable qui intéresse de plus en plus les candidats au voyage.